Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Dans quelques minutes, nous avons rendez-vous avec Laurent Gérard et Mademoiselle Jade. Mais à 8h39, on retrouve la revue de presse avec Adeline François. Et dans la presse ce matin, ceux qui travaillent dur.
Mais comment font-ils ? Meeting le soir, radio ou télé le matin, réunion avec l'équipe de campagne l'après-midi, éventuellement un journal de 20h, puis à nouveau un meeting. À 25 jours du premier tour de la présidentielle, les organismes des candidats commencent à porter sérieusement les stigmates du cocktail journée maxi, nuit rikiki. Et c'est Libération qui s'intéresse ce matin à leur santé. Les candidats engagés corps et âme, titre le journal. Au début de tout, écrit Laure Breton, il y a ce conseil de Jacques Chirac. En campagne, tu bouffes quand tu peux bouffer, tu bois quand tu peux boire, tu dors quand tu peux dormir et tu pisses quand tu peux pisser. Il paraît qu'il aurait aussi ajouté une référence à une activité sexuelle que je ne dirai pas. En 2017, à chacun ses petites recettes pour résister à la fatigue et au stress de la campagne, pour entretenir le corps qui est à la fois un outil de travail et une vitrine. Il faut être en forme ou en avoir l'air. Quinoa pour Mélenchon, graines de lin et thé rouge pour Marine Le Pen, ostéopathie pour François Fillon, toujours traumatisé par le mal de dos dont il avait souffert à Matignon. Benoît Hamon, lui, se prend un petit verre de vin blanc de temps en temps. Rien que de très sage, diront certains, mais à l'heure de la transparence, peu s'aventurent en fait en dehors des sentiers licites. Les amphètes et la cocaïne des années 80, c'est fini. Leurs effets étaient trop difficilement maîtrisables en public, écrit Libé. En revanche, explique un médecin du sport, les bêta-bloquants seraient légion. Ils empêchent le tremblement des mains et la transpiration du visage. Les corticoïdes aussi, pour faire tenir la voix. Et puis, il y a des astuces de sophrologue, avec notamment la technique de l'ancrage. Regardez Mélenchon lors du débat sur TF1. Quand il prend son verre d'eau, il le fait très lentement. Ça lui prend 10 secondes. C'est une astuce de préparation mentale pour se recentrer, se ressourcer avant de repartir à l'assaut. Mais par-dessus tout, la première drogue, explique le président de SOS Addiction dans cet article, la première drogue, c'est les projecteurs, le pouvoir, la parole en public. Ne jamais oublier que notre principal fournisseur de drogue, c'est notre cerveau.
Un cerveau qui intéresse au plus haut point Elon Musk.
Oui, la presse et notamment les Échos racontent ce matin ce nouveau rêve complètement fou du patron de Tesla. Il veut envoyer des touristes sur Mars, ça on le savait, mais ça ne lui suffit plus. Il veut maintenant connecter nos neurones aux machines. Le milliardaire californien travaille à la conception d'implants cérébraux qui permettraient à l'homme de communiquer directement avec un ordinateur sans contact tactile ni vocal, des implants pour télécharger ses pensées. Et pour cela, Elon Musk a mis sur pied une nouvelle start-up qui s'appelle Neuralink, dont le projet consiste à ajouter une couche logicielle au cerveau humain. L'entreprise a déjà recruté plusieurs universitaires en pointe dans les neurosciences, dont un chercheur qui s'est déjà fait connaître en implantant des électrodes dans les cerveaux d'oiseaux pour étudier leur champ. C'est fascinant et vertigineux.
Vertigineux aussi l'engrenage qui a conduit à la chute de Michel Platini.
Oui, Le Monde en kiosque cet après-midi va publier une longue enquête très fouillée intitulée « Qui a voulu tuer Michel Platini ?». Un an après l'élection à la présidence de la FIFA, qui lui semblait pourtant acquise, le journal a reconstitué l'engrenage qui a conduit à la chute de l'ex-idole du foot mondial. Au départ, on lui a reproché d'avoir perçu de la part de la FIFA en 2011 2 millions de francs suisses pour des travaux effectués 10 ans plus tôt. L'affaire va foudroyer les ambitions de Platini, qui était pourtant le grandissime favori à la succession de Sepp Blatter. Ses proches en sont persuadés, il a été la cible d'un complot politique montée pour saborder sa candidature. Mais alors, qui a été la gorge profonde qui a aiguillé les enquêteurs suisses vers cette histoire des 2 millions ? Le Monde relate une rencontre dans un parc de Zurich entre un proche de Sepp Blatter et un magistrat du parquet suisse. On connaît la suite. Platini retirera sa candidature, mais Sepp Blatter devra lui aussi renoncer à sa propre succession. Arroseur arrosé. Une enquête qui s'apparente à une plongée en eau trouble dans les arrière-cuisines peu reluisantes du foot mondial. C'est à lire dans Le Monde cet après-midi.
Complot aussi en politique.
Moi aussi, j'ai mes services de renseignement, s'est amusé François Fillon lors de son déplacement au Pays Basque il y a 4 jours. Selon Le Canard enchaîné de ce matin, le candidat de la droite a révélé à ses proches qu'il avait été informé que l'invité surprise de l'émission politique de France 2 allait être Christine Angot. Oui, quelqu'un m'avait prévenu. Qui est la gorge profonde ? On ne sait pas. Mais c'est ce qui a permis à François Fillon de balancer que la romancière était elle aussi mise en examen. C'était préparé. Les soupçons de cabinet noir, eux, font la une de Charlie Hebdo cette semaine avec un dessin très drôle de Coco. On y voit François Hollande dessiné en James Bond. l'espion qui venait de Tulle. Bon, en l'occurrence, en ce moment, le président est à Kuala Lumpur, où il poursuit son dernier voyage présidentiel, et la presse qu'il suit là-bas rapporte ce matin les dernières confidences du chef de l'État, sa philosophie douce amère, comme l'écrit Solène de Royer dans Le Monde. Lundi soir à Singapour, le chef de l'État qui visitait la National Gallery s'est soudainement arrêté devant un tableau immense et sombre. Sous un ciel crépusculaire, deux tigres s'attaquent à un buffle au bord d'un précipice. Hollande regarde la toile, jette un œil au journaliste et sourit. Vous avez vu la métaphore ? Un peu plus tard, comme le veut la tradition, il baptisera de son nom une orchidée qui va pousser dans le carré des célébrités du musée. Hollande va citer alors Voltaire et Candide. Il faut bien cultiver son jardin. Pendant ce temps, à l'Élysée, dans les jardins, ce sont désormais 11 chiens qui se baladent. L'Express, en kiosque ce matin, révèle que Philae a beaucoup de travail ces derniers jours. Le labrador présidentiel vient d'avoir une portée de 10 petits chiots. Ils seront donnés après sevrage, carnet rose plutôt que cabinet noir.
C'était la revue de presse d'Adeline François.